C'est l'heure de Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International en ce mardi avec toujours de l'actualité footballistique. Et oui, les championnats sont finis, mais l'actualité continue et nous évoquerons Antoine Griezmann, en vrai patron des Bleus, il a brillé dans la victoire de l'équipe de France contre la faible Bolivie. Lui et Thomas Lemar, tous deux buteurs, et puis l'ensemble des internationaux ont plu à Didier Deschamps, même Mbappé en numéro 9. À quelques jours des deux matchs officiels, comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020, nous verrons donc comment vont les champions du monde. Les Comores déboutés par le tribunal arbitral du sport, la demande déposée par la Fédération comorienne contestant la participation du Cameroun à la prochaine CAN a été rejetée par les arbitres du TAS qui ont déclaré cette demande irrecevable. Neymar une nouvelle fois dans la tourmente, une nouvelle fois pour des raisons extra-sportives, alors que la Copa América commencera dans 10 jours au Brésil. Le joueur du Paris Saint-Germain tente de contrer les accusations de viol qui perturbent sa préparation à la compétition continentale. L'année noire n'est pas finie pour le numéro 10 do Brasil. Et pour évoquer ces sujets, Habib Bey, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Gilles Verdez aussi est là, bonjour Gilles.
Bonjour.
Et puis Philippe Doucet, bonjour Philippe.
Bonjour Madame Annie.
Qui a quitté les terrains de tennis donc pour venir faire un tour dans Radio Foot International, son grand dame, notre ami de Canal+.
Non, c'est toujours
si,
un plaisir.
C'est ce que vous dites, Annie. C'est ce que vous nous avez dit. Je le confie aux auditeurs.
J'hésite beaucoup entre Annie et Federer et c'est très flatteur pour vous, je peux vous le dire.
Habib a dit qu'il n'avait aucune hésitation, alors... Radio Foot, c'est parti.
Griezmann a devant lui le jeu qui s'ouvre, le pied droit, oh, il y a des espaces, le contrôle. Là, et le petit lob. Et le petit lob qui ne peut pas être sauvé. Ouverture du score dès la 5e minute pour Thomas Lemar. 1-0 pour les Bleus. Thomas Lemar qui est dans une soirée à l'aise techniquement. Tiens, pied droit, pourquoi pas. Avec Umtiti et Griezmann. Et Antoine Griezmann pour le deuxième. Voilà, ça vient récompenser 42 minutes au cours desquelles l'attaquant de l'Atlético de Madrid aura été dans tous les coups défensifs souvent, mais bien sûr et surtout offensivement. 2-0 pour les Bleus.
2-0 donc, une victoire logique des Bleus sur les Boliviens. Le match amical disputé samedi soir à Nantes a vu cette équipe de France reprendre le rythme. À la veille donc de deux matchs comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020. Il y aura un Turquie-France samedi soir et puis un Andorre-France mardi prochain. L'équipe de France s'est donc imposée face à ces Sud-Américains. Il fallait prendre le match très au sérieux, explique le latéral Benjamin Pafard.
On savait que voilà, ça allait pas être un match facile face à une équipe de Bolivie qui est regroupée. Donc après on sait qu'on a trois matchs importants. C'est vrai que c'est pas facile, il y en a qui sont en vacances depuis un certain temps. Voilà, on a été sérieux, on a fait le boulot. On sait qu'en Turquie ça va être avec le public qui va pousser, on va être attendu comme partout, mais en Turquie c'est vrai que voilà, l'ambiance est extraordinaire. Donc voilà, on y va, on est serein, on sait jouer notre football, on l'a encore montré, on jouait plutôt bien au ballon et quand il fallait se regrouper un peu plus, on sait faire les deux, donc on sait bien.
C'est une remise en jambe, on va dire, Habib Bey, que ce résultat, ce 2-0, avant deux matchs plus importants et peut-être surtout un plus corsé en Turquie, comme l'imagine Benjamin Pavard.
Oui, au-delà du résultat, c'est ces 90 minutes qui remettent pas tout le monde à niveau, mais qui permettent de reprendre la compétition, parce que certains ont raté il y a un moment maintenant. Essayer de se retrouver aussi lorsque vous êtes un groupe comme l'équipe de France qui sort de cette Coupe du Monde où ils ont gagné. Donc toujours se remettre en question, essayer de faire les choses bien. Moi, je les ai trouvés sérieux, même si c'était une adversité très faible, je trouve, de la part de la Bolivie. Mais au-delà de ça, encore une fois, on a revu ce qu'était de mettre en place Didier Deschamps, c'est-à-dire d'avoir un équilibre dans cette équipe. Je crois que cette équipe se ressemble. Elle nous a montré ça aussi par le passé. Elle joue au football quand elle le veut. Et c'est ça qui est intéressant. Après, tirer des enseignements par rapport à ce match de la Bolivie, c'est sûr que ce qui va se passer en Turquie sera beaucoup plus difficile pour les Français.
Gilles, cette équipe de France, on a vu notamment briller Antoine Griezmann et Thomas Lemar, les buteurs d'un soir, les joueurs de l'Atlético Madrid.
Absolument, Lemar qui a su se remettre en question après une arrivée difficile à l'Atlético, et Griezmann, lui, qui est à mon avis à son apogée en bleu, c'est-à-dire que c'est le patron, le leader, l'âme, le guide spirituel et technique, tactique aussi, mental de cette équipe, donc ça
il
fait beaucoup pour un seul.
Il prend ses responsabilités.
Totalement, il est en forme, il a envie. Il a aussi envie de se montrer, je pense, conquérant. Et derrière lui, il entraîne toute cette équipe. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié.
Philippe, cette prestation de l'équipe de France, vous aussi, vous avez apprécié Thomas Lemar et cette association aussi en équipe de France entre Lemar et Griezmann.
Oui, puis ça fait plaisir que Lemar revienne, ouais. Parce qu'il avait quand même pas mal disparu du paysage. On a presque oublié que dans l'avant-Coupe du Monde, il était on va pas dire un leader, mais on le voyait même parfois certains jours décrocher de son côté gauche. Didier Deschamps lui donnait de la responsabilité, même dans l'axe, etc. Vous voyez, c'était
il jouait plus
dans la dernière année avant la Coupe du Monde.
Est-ce que c'est un bon signe pour lui d'ailleurs?
Il avait un peu disparu. Il était devenu un petit peu falot, un peu anodin, tout en étant pourtant à l'Atlético, mais en faisant une saison relativement moyenne. Donc
pourquoi d'ailleurs on essaye de le reformater?
Bon, c'est pas toujours facile. Quand on n'est pas dans l'intérieur, c'est toujours difficile de juger de ce qui se passe pour un joueur. Ce qui est sûr, c'est qu'il a traîné un peu entre blessures, des périodes où il a joué, des périodes où il a pas joué, des périodes où il était pas forcément titulaire indiscutable, etc. Donc, bon, ça a été une saison globalement un peu moyenne à l'Atlético, mais il a pas perdu son football et il l'a très bien montré. En tout cas, pour l'équipe de France, pour l'Atlético, c'est autre chose, mais pour l'équipe de France, c'était un vrai retour parce que franchement, ça fait un an et demi qu'il avait un petit peu disparu. De la planète équipe de France.
Gilles ?
L'Atlético, c'est une équipe de système. C'est une équipe systémique où vous devez absolument ne pas bouger de la case impartie par l'entraîneur.
Pour ça que je parle de reformatage.
Mais oui, exactement. Pour Lemar, il y a quand même un potentiel créatif et technique qui est un buteur. Je pense qu'à l'Atlético, il y a une petite, il le dira pas, il y a une petite frustration parce qu'il est parfois englué dans un système qui ne lui correspond pas totalement.
Griezmann avait connu la même chose.
Exactement.
Hein.
Il avait été mis
sur le banc parce qu'il respectait pas forcément ce que Simeone lui demandait, parce qu'il n'était pas aussi dans son ADN préconçu comme Simeone le veut aussi dans les efforts défensifs. Il faut dire que moi je trouve que Simeone a fait le Griezmann d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en quelque sorte le Griezmann qu'on voit aujourd'hui, patron avec autant de personnalité, capable justement d'assumer cette capacité qu'il a à emmener l'équipe de France, c'est aussi Simeone qui lui a donné ce caractère-là. Et peut-être que Lemar est dans ce processus de transformation sans forcément changer ce qu'il est pour devenir ensuite un joueur avec beaucoup plus d'importance pour l'équipe de France et pour l'Atlético. Ce qui est bien, c'est qu'on voit aussi la connexion qu'il peut y avoir entre ces deux joueurs. Ils s'entraînent tous les jours ensemble, donc on sent qu'ils parlent le même langage, le même football. Ça, c'est bien pour Didier Deschamps et je crois qu'il va aussi s'appuyer là-dessus, même s'il y avait des absents, on l'a dit, puisque Giroud était pas là parce que forcément il a gagné la Ligue Europa. Mais je crois que Lemar qu'on a connu à Monaco reviendra peut-être différent, mais il reviendra avec les mêmes qualités de pied gauche, avec cette même qualité de passe, cette touche technique qu'on a pu voir sur son but. Moi, je crois qu'il ne faut pas se faire de soucis pour lui.
Gilles a beau critiquer en creux Simeone, malgré tout, on est obligé de constater sur la durée, sur les 6-7 ans, ça fait combien d'années que Simeone est là-bas? Je crois 6 ans, il me semble. Il a fait progresser énormément de joueurs. On est obligé de le reconnaître. On peut ne pas aimer son football, ça, je rejoins Gilles là-dessus. Ne pas aimer regarder son équipe jouer, mais il a fait progresser beaucoup de joueurs et il a eu des résultats tangibles. Ça, c'est une réalité.
Et pour l'instant, c'est vrai que les Mars se fondent dans ce collectif. Et donc avec une certaine peut-être un certain temps, il y avait dans ce groupe offensif, il y avait aussi Ben Yedder, le joueur de Séville, alors qu'il vient de temps à autre et il manque peut-être de continuité, mais finalement c'était intéressant aussi sa prestation.
J'avoue que j'étais passé sur les barrages à ce moment-là quand il est rentré.
Vous étiez passé sur le
tennis. Je l'ai moins vu.
Il y a un problème pour ces joueurs-là qui sont, je dirais, en marge. Intégré au dispositif de Deschamps, c'est déjà beaucoup, hein, parce qu'il y a des joueurs qui ne le seront jamais, mais qui sont un peu en marge. C'est que quand vous avez des petits moments ou des opportunités réelles, il faut les concrétiser. Et ça, c'est pour lui, c'est un énorme manque. C'est-à-dire que s'il avait marqué, ça change tout le regard qu'on porte sur lui. Là, oui, il se crée l'occasion, mais il ne la concrétise pas. Donc, je suis pas sûr que sa présence soit pérenne en équipe de France.
Il y a eu beaucoup d'occasions manquées d'ailleurs dans ce,
oui,
ce match.
Oui, il y a même Florian Thauvin qui, je trouve, a fait un match très correct pour une pour un match en équipe de France où il était titulaire. Ouais. Je crois qu'il fallait le souligner parce qu'on l'avait vu en grande difficulté sur un match précédent. Je me rappelle plus contre qui, mais il n'avait pas du tout profité de sa titularisation. Là, il le fait, même si c'est vrai qu'on voit sur ce crochet où il doit enchaîner pied droit où il glisse malheureusement, mais c'était très très bien joué de sa part. C'est sûr que les joueurs qui rentrent comme ça et qui sont intégrés à cette équipe de France, on attend d'eux qu'ils fassent la différence pour que tout de suite il y ait un impact. Il faut jamais oublier que ces joueurs-là, pour l'instant, sont des joueurs de complément, c'est-à-dire sont des joueurs de complément de groupe. Et on le sait, aujourd'hui, ils ne seront pas intégrés au 11 titulaire de Didier Deschamps parce qu'il ne changera pas, à l'image de ce que fait Pavard, par exemple, où on peut le discuter en termes de qualité. Il sera là parce que c'est un homme de Didier Deschamps, c'est un homme qui est champion du monde. Et on l'a vu même dans son discours par rapport à Umtiti et l'anglais. Il a dit l'anglais est très très bon en club, c'est lui qui joue à la place d'Umtiti. Mais n'oubliez pas ce qu'a fait Samuel Umtiti pour cette équipe de France. Donc le statut prédomine, même si Umtiti est moins bon à l'entraînement, même si Umtiti est moins bon en club, c'est Umtiti qui jouera tant qu'il sera performant. En tout cas, tant qu'il rendra une, on va dire une fiche un petit peu régulière pour Didier Deschamps. Donc, je crois que il faut pas regarder tous ces joueurs qui sont intégrés comme devoir être décisifs tout de suite. C'est des compléments et encore une fois, ils rentrent avec leur qualité. Moi, je crois que Ben Yedder est un profil différent pour Didier Deschamps. C'est ça qui est intéressant.
Oui, mais en tout cas, c'est vrai que Didier Deschamps, dans ces matchs-là, on le connaît, il fait une revue d'effectifs et il y a beaucoup de changements. En tout cas, il y avait un personnage évidemment important sur ce terrain, c'était Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui était en numéro 9. Alors, si je vous parlais de responsabilité tout à l'heure, c'était évidemment allusion aux déclarations du jeune prodige français. Écoutons l'appréciation de Didier Deschamps sur ce qu'a fait Kylian Mbappé qui est sorti hein, à la mi-temps, légèrement blessé, c'est, il ne faut pas s'alarmer, mais en tout cas, il n'a fait que la moitié du match.
Kylian, attaquant Axia, je ne sais pas, numéro 9, puisqu'il était avec Antoine. Voilà, il a eu quelques opportunités de se mettre en valeur, surtout sur les ballons plus sur la profondeur. Forcément, quand il est là, il y a moins d'espace, il est plus dos au jeu. C'est moins son registre, mais il dépend aussi de ce qu'il y a autour et derrière lui. Avec un bloc bas, c'est moins évident par moment pour tous les attaquants et ceux qui ont de la vitesse un petit peu, mais il a été intéressant aussi dans ses déplacements.
Habib, évidemment, lui, c'est un des joueurs clés de Didier Deschamps, champion du monde et ô combien respecté. Il vous a plu, lui, dans ce poste de numéro 9 ?
Je vais peut-être vous surprendre, mais non.
Non, mais vous êtes pas le seul parce que...
Il me plaît pas, je vais vous expliquer pourquoi.
On en a parlé
pourquoi,
ce matin,
en fait.
Effectivement.
Il me plaît pas parce que il faut pas qu'il rentre dans une forme de caricature de ce qu'il voudrait être et ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire que je vais m'expliquer. On le voit décrocher, participer au jeu, toucher le ballon beaucoup trop de fois, avec des gestes qui sont parfois, pour moi, inutiles, qui sont polluants dans son jeu. Alors, je dis pas, c'est un joueur de spontanéité, c'est un joueur qui est capable de créer, donc on va pas lui enlever tout ça. Mais je trouve que lorsque vous avez justement un joueur comme Griezmann, qui va forcément vous donner les ballons, il doit être patient. C'est-à-dire que pour l'instant, Kylian n'est pas patient et refuse de ne pas toucher le ballon pendant 3, 4, 5 minutes. C'est son jeu, j'en suis conscient. Mais sa progression aujourd'hui, à ce poste-là, c'est d'être capable de se dire, ok, peut-être que je vais moins la toucher, mais lorsque je vais la toucher dans une situation où je serai décisif, où je vais être dangereux. Je trouve qu'il multiplie le fait de décrocher, forcément pour heurter l'adversaire. J'en suis conscient et ça part d'une très très bonne idée et ça part d'une bonne intention de sa part. Mais on voit que dans tout ce qu'il fait et lorsqu'il décroche et le nombre de ballons qu'il touche, il y a énormément de déchets dans son jeu. Et il faut jamais oublier que, oui, il sera jugé sur ses statistiques, pardon, mais on va aussi le comparer au numéro 9 qui marque beaucoup de buts, et à un moment donné, on va se dire, est-ce qu'il n'y a pas trop de déchets dans son jeu? Il ne faudrait pas que ça aille dans cet aspect-là, lorsqu'il joue en équipe de France, qu'il soit justement à la construction du jeu de l'équipe de France. Il doit profiter de ce qui se passe autour de lui. Devenir peut-être un petit peu moins visible dans le jeu, mais plus efficace sur la finition.
Philippe, est-ce que vous pensez aussi que Mbappé est peut-être trop impatient, hein, parce que bon, il est jeune, est-ce que ça va...
Impatient, alors... ça me dérange pas, Annie. Vraiment, il doit l'être impatient. C'est vraiment dans l'aspect de vouloir toucher toujours ce ballon, et il en ressort pas tout le temps quelque chose.
Philippe ?
Oui, mais enfin, je pense pas qu'il y ait
et
de débat.
Et vous avez plu, vous, en numéro 9 ?
C'est Didier Deschamps a bien décrit, c'est-à-dire qu'on sait bien que quand il n'a pas l'espace pour faire jouer sa vitesse, il est infiniment moins brillant et voilà, il est moins éclatant que quand il part à 40 mètres du but adverse et qu'il a beaucoup d'espace et qu'il peut en quête quelques foulées faire une différence considérable. Donc c'est moins spectaculaire, si vous voulez. Et dos au jeu et autres, ça va pas être le meilleur du monde. Pour autant, c'est un véritable attaquant. Je comprends pas très très bien le débat. C'est d'ailleurs pas du tout ce qu'a dit Habib. Évidemment qu'il peut jouer avant-centre. Évidemment qu'il peut jouer en neuf. Simplement, il sera peut-être différent de Giroud. Il aura peut-être de temps en temps à gauche, de temps en temps à droite. Il bougera un peu plus. Je sais qu'on reprochait beaucoup ça à Benzema à une certaine époque. Ça reste des attaquants, des purs attaquants, des attaquants d'extrême grande qualité, avec un vrai plus sur certaines qualités très fortes, un peu moins fort sur d'autres.
Mais alors, quelle que soit la place sur le terrain,
il va moins marquer de la tête que Giroud, etc. On est bien d'accord. Mais il a d'autres qualités à faire valoir. Et c'est un attaquant. Alors, vous pouvez l'utiliser en neuf, évidemment, parmi les places où vous pouvez utiliser, évidemment.
Gilles.
Alors déjà, moi, ce qui m'amuse, c'est, vous y faisiez allusion, je veux plus de responsabilité. Mais s'il avait dit ça avec un entraîneur fort comme Deschamps, parce que le PSG est faible au niveau de sa direction. S'il avait dit ça, mais c'est fini en équipe de France. Et ça m'amuse, parce que Mbappé, qui est très intelligent, dira jamais ça à Deschamps. Le premier qui dit ça, c'est comme avec Guardiola, je veux jouer là, il joue plus jamais. Non seulement il joue pas à ce poste, mais il joue plus jamais. S'il a dit ça avec
Deschamps,
le PSG.
Deschamps l'a mis en numéro 9 quand même. Là.
Oui, mais parce qu'il n'y a pas Giroud, c'est là où je voulais en venir. C'est que là, il n'est pas un poste qui, pour lui, sera le poste du présent. Peut-être dans le futur, mais pour le moment, il y a Giroud. Je suis pas fan de Giroud, mais Giroud est indéboulonnable en équipe de France. Donc je trouve fin de la part de Mbappé, ça illustre bien aussi le prestige de Deschamps d'avoir dit je veux plus de responsabilité avec des faibles comme le PSG, avec des forts comme l'équipe de France, il vaut mieux se taire.
Mais ça, il sera numéro 9, là où je rejoins oui. Philippe, c'est qu'il sera numéro
bien
9
sûr.
Dans le futur.
C'est son destin,
ce que je veux dire, c'est qu'il faut très vite qu'il se concentre justement sur ce qu'est ce poste de numéro 9. Et le poste de numéro 9 n'est pas lié qu'à une équipe qui va vous attaquer, avec qui vous allez avoir de l'espace dans le dos. Vous pouvez tomber sur des équipes comme la Bolivie qui vont s'asseoir sur leur gardien, et à un moment donné, il faut se réinventer. Rappelez-vous de Ronaldo le Brésilien, R9, qui lorsqu'il était dans ces situations de bloc bas, à un moment donné, c'est un petit peu réinventé. C'est inspiré d'un Romario qui, lui, était capable, dans des tout petits espaces, de faire la différence. Ce sont des joueurs qui sont complètement différents. Ce qui me dérange chez Kylian, mais ça part d'une très bonne intention, donc encore une fois, ça me dérange, mais je le comprends. C'est que il veut toucher le ballon, il veut être visible, il veut être impliqué.
C'est pour ça que je parlais d'impatience.
Voilà, mais pour un entraîneur, pour Didier Deschamps, si j'ai cette discussion avec Didier Deschamps, il va me dire mais moi Habib, c'est ce que je veux. Je veux lui dire mais encore une fois, le sélectionneur que vous êtes, l'entraîneur que vous êtes, bien sûr doit apprécier ça. Moi, je suis plus sur l'analyse de me dire j'ai envie de moins te voir. Par contre, quand je te vois, il faut qu'il se passe quelque chose. Et j'ai l'impression que Kylian, que ça soit aussi au PSG quand il n'y avait pas Neymar, parfois est pollué par le fait de vouloir la toucher. Et puis on se dit, là, ça fait 10 minutes que tu la touches. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. C'est ça qui peut me déranger parfois. Maintenant, encore une fois, ça sera un numéro 9 qui sera top 3 aujourd'hui dans le monde sur les 10 prochaines années, parce que le talent est juste hors norme.
Alors, quel bilan de ce match avant cette rencontre en Turquie, qui est peut-être plus intéressante ou qui sera plus relevée que celle d'Andorre ensuite, mais en tout cas, pour ayant en vue les éliminatoires, effectivement, toute victoire est nécessaire.
En tout cas, il fallait le faire ce match, parce qu'il y a trop d'écart dans les dates, c'est très loin. Le 8 juin, pour des joueurs, un certain nombre ont fini le 12 mai, ceux qui jouent en Angleterre, d'autres le 19 mai, d'autres le 26 mai, on va jusqu'à ceux qui ont fait des finales de Coupe d'Europe, eux, c'est l'inverse, ils ont la difficulté d'enchaîner, mais il fallait le faire ce match, c'était nécessaire. Alors c'était un vrai match de préparation pour la Bolivie aussi, qui va jouer la Copa América, donc c'est pas des matchs de haute compétition. On peut pas en tirer des analyses fantastiques on peut pas avoir des milliers d'informations de ce type de match, mais en tout cas il fallait le faire, c'était une nécessité, c'est déjà une première chose. Et après, le faire correctement, ce que grâce à Griezmann, Lemar et d'autres a été le cas, donc finalement c'est plutôt positif.
Gilles,
l'envie était importante, elle est toujours là. Ils sont pas encore repus de succès, c'est le risque pour des champions du monde, hein. Mais là, il y a eu le petit couac en Ligue des Nations, mais c'est pas très grave. Donc l'envie est là, l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Et quand même, là, c'est un match, vous le disiez, importantissime. Pour moi, c'est la finale du groupe. Si on gagne en Turquie, on terminera premier du groupe. J'ai pas beaucoup de doutes, mais levons-les en gagnant en Turquie. Donc il fallait effectivement cette remise à niveau, cette petite revue d'effectifs. Et maintenant, quelques mondialistes vont revenir là-dedans, quelques titulaires en puissance. Et je pense que l'équilibre est toujours là.
En tant que sélectionneur, on en tire quoi de ces retrouvailles et de cette reprise de rythme, on va dire,
Je pense
Habib.
Que déjà, dans un premier temps, la victoire, parce qu'on sait que Didier Deschamps a beaucoup d'envie de gagner, et parfois c'est au détriment du spectacle, mais lui, c'est important de gagner, et je crois qu'il a raison, parce que c'est sur ça que vous êtes aussi jugé. Et la deuxième chose, c'est le sérieux qu'ils ont mis dans ce match. Moi, je trouve que, comme l'a dit Gilles, il n'y a pas de joueurs qui se sont grisés, on n'a pas vu de joueurs avec une grosse tête qui sont arrivés avec cet aspect de dire « je suis champion du monde, c'est la Bolivie, on est sur un match qui ne compte pas, donc je vais la régaler un petit peu ». J'ai trouvé cette équipe sérieuse, sans forcément de génie, mais sérieuse, et puis avec un joueur comme Griezmann qui affiche encore un niveau très élevé. Donc ça, c'est une bonne chose à ce stade de la compétition, parce que quand je dis à ce stade de la compétition, n'oubliez pas que là, on arrive, on est le 4 juin, et qu'on arrive après une saison, pour certains gars, à 50-55 matchs. Donc voir, par exemple, Griezmann dans cet état physique, sachant ce que demande Simeone à l'Atlético, pour moi, ça, c'est très encourageant pour Deschamps. Il peut aller en Turquie avec beaucoup de confiance.
Alors, les Bleus partiront en Turquie en fin de semaine. Ils, aujourd'hui, ne s'entraînaient pas. Et d'ailleurs, ils étaient même à l'Élysée, reçus par le président Macron, qui les a décorés aujourd'hui, chevalier de la Légion d'honneur. Et écoutons le président parler à cette équipe des Bleus.
Cette coupe et la décoration que je vais vous remettre ne vous quittera plus. Et c'est une récompense d'un jour, c'est l'honneur de la République qui vous est rendu. Mais à partir de maintenant aussi, il vous oblige. Et je n'ai aucun état d'âme, et même plutôt une immense fierté à vous le remettre. Parce que je vous ai vu à la hauteur, non seulement de l'exploit sportif, mais de ses valeurs. Alors merci, une fois encore, au nom de toute la nation, de toutes les Françaises et les Français, et résolument, vive la République et vive la France.
Voilà les jeunes décorés. Gilles, ça
moi j'aime
fait
ça.
Sourire.
Moi j'aime ça, j'ai la fibre patriotique. Je suis pas chauvin, mais j'adore ça. Et franchement, je trouve que ces champions du monde n'ont pas tout à fait été fêtés à leur juste valeur pendant un an. Je trouve que il y a pas assez de presque de dévotion. Moi, à leur égard, j'ai de la dévotion, et je trouve que il y a pas assez de fêtes. Il y a pas assez de reconnaissance. On a l'impression que c'était presque acquis, banal. Voilà, on a gagné. Non, on a gagné pour 4 ans et plus, et c'est merveilleux. Donc, mais je suis très content qu'ils soient honorés.
Surtout, Gilles, ce qui est important, c'est que les footballeurs se sont tellement fait taper dessus en termes de comportement que là, ce que dit Macron, au-delà de la victoire sportive, il y a eu vraiment un comportement exemplaire, et à l'image de ce que les Français demandent à cette équipe de France, l'exemplarité d'un métier qui est aujourd'hui décrié parce qu'il y a beaucoup d'argent, parce qu'il y a ce côté bling-bling. Eux ont rempli le contrat en étant champion du monde, en me donnant beaucoup de joie à énormément de gens, et c'est vrai que on comprend déjà l'émotion du président, on comprend qu'il soit décoré. Moi, j'ai eu la chance de l'être dans mon pays aussi pour les mêmes raisons, donc c'est un moment important lorsque vous êtes joueur, d'avoir la reconnaissance d'une nation, votre nation, et je pense qu'ils ont passé un bon moment.
En plus, Philippe, c'est vrai que c'est pour prolonger cela, parce que finalement, c'était déjà l'été dernier, et là, on va partir sur d'autres compétitions, et on se souvient un peu de ce ratage de la descente des Champs-Élysées dans le bus. Après, il y avait eu la très belle fête au Stade de France, donc c'est aussi une manière de prolonger le plaisir pour ces joueurs qui sont pratiquement tous les mêmes encore.
Oui, tout à fait. Oui. De ce point de vue-là, c'est assez habile même en termes de communication, parce que ça permet de prolonger effectivement le côté festif, de relier dans le temps tout cela, en sachant que de toute façon, depuis la Coupe du Monde, il y a eu très peu d'échéances. Ils ont été éliminés de la Ligue des Nations, mais dans l'anonymat. C'était pas quelque chose de grave. Donc tout cela est dans un paysage complètement assagi qui ne pose pas de problème. Et puis par contre, quand même, derrière, la compétition va quand même vraiment démarrer avec le match en Turquie et autres. Même si on se fait pas de mouron pour la qualification, malgré tout, on va rentrer dans une autre phase où l'équipe de France est à nouveau en compétition, parce que dans un an pile, il y a l'Euro, et voilà, donc on rentre dans une deuxième phase qui est un peu plus délicate, celle-ci, qui est de la compétition.
Gilles, il y a un moment dans l'histoire très récent où le football de nation était gravement remis en question, disparaissait presque au profit du football de club. La morale rédemptrice est venue du football de nation. Les problèmes, les comportements extrasportifs dévoyés viennent des clubs maintenant. en équipe nationale, je trouve qu'on s'est assagi, et notamment l'exemple des Bleus est là pour le montrer. J'en suis très content.
Mais vous croyez pas si bien dire, parce que justement, nous allions attaquer autre chose, c'est les Bleuets. Parce que quand on n'a pas les Bleus, on a les Bleuets en France. Donc c'est l'équipe de France Espoir qui prépare un Euro qui débutera le 16 juin. Et cette équipe de jeunes joueurs français s'est imposée en match amical. C'était hier soir face à la Belgique sur le score de 3-0. On a eu un doublé de Jeff Reine-Adélaïde et un but de Moussa Dembélé, le Lyonnais, avant une dernière rencontre amicale, ça sera le 11 juin contre l'Autriche. Mais ce qui a retenu l'attention, et là Gilles, je vous rejoins, autour des Bleuets, ça a été d'ailleurs très très suivi sur les réseaux sociaux, c'est ce petit discours dont les a gratifiés Didier Deschamps. Alors eux qui sont entraînés par Sylvain Ripoll ont, avant leur entrée en campagne, on va dire pour l'Euro, eu droit à une vraie leçon de morale de Didier Deschamps, qui un jour peut-être d'ailleurs les appellera chez les A. Écoutons un extrait de ce court discours de Didier Deschamps.
Si vous considérez que jouer en championnat d'Europe, vous le prenez par-dessous la jambe, ça serait dommage. Dommage pour vous, par rapport à ce que ça représente, par rapport à la confiance que vous a accordé Sylvain, parce que vous êtes là, il y en a d'autres qui pouvaient y être et qui ne sont pas, c'est le cas à chaque fois. Et si vous allez là-bas, avec tout ce que vous représentez, tout ce que vous pouvez faire dans vos clubs, avec le torse bombé sur la pointe des pieds, vous allez vous faire défoncer. Même s'il y a peut-être moins de qualité en face, mais ça passera pas. C'est une aventure sportive, c'est un championnat d'Europe, vous représentez l'équipe de France, et puis c'est une aventure humaine aussi. Tout le staff avec Sylvain est là pour vous mettre dans les meilleures conditions. Après, on a été footballeur aussi, c'est vous sur le terrain. Où vous voulez, où vous y mettez tout, où vous faites les choses à moitié.
Alors on dirait que d'ailleurs ces propos ont eu un effet bœuf parce que l'équipe de France, les Bleus, sortaient de...
Ils ont été très bons.
Et puis 5 matchs sans victoire. Donc tout d'un coup là, c'est l'effet Didier Deschamps.
Mais moi ce qui me plaît dans ce que dit Didier Deschamps, au-delà du fait que ça soit appuyé, que ça soit très très clair, ce qui me plaît en fait dans le management, et là on est plus dans l'aspect du management, c'est qu'il ne vient pas avec sa posture de dire je suis le sélectionneur de l'équipe A. Vous avez vu le nombre de fois où il dit Sylvain Ripoll,
qui est tout près de lui, hein, d'ailleurs. Voilà,
exactement. C'est-à-dire qu'il vient pas en disant moi je suis l'entraîneur des A, je vous donne la leçon. Non,
et
il
met en perspective. C'est pas la première fois qu'il vient s'adresser aux jeunes.
Et c'est ce qui me plaît, c'est qu'il met en perspective le sélectionneur. Il vous a sélectionné, il vous a donné de la confiance. Il y en a qui auraient pu ne pas être là. Il donne ce message qui est un peu global. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de déceptions chez U21 parce que c'est ça les espoirs. Si je ne me trompe pas.
U23
même. Mmh. Et ce sont des joueurs, en fin de compte, qui devraient être presque en équipe de France. S'ils avaient le talent d'Mbappé,
Fernandez, comme Pavard, je crois.
Concrètement, lorsqu'il dit je vous regarde, c'est qu'il les regarde parce qu'il sait que dans ces 23-là, ou en tout cas dans
ces. C'est un vivier.
C'est un vivier. Et puis peut-être que dans 6 mois, il en aura 2, 3 avec lui. Et je crois que c'est important pour ces joueurs-là de se projeter, de dire les espoirs, c'est pas une fin en soi. Alors qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été en espoir et qui ont ensuite disparu, qu'on n'a plus jamais revu en équipe de France, qui avait un parcours assez incroyable. Tout le monde disait, c'est la nouvelle pépite. Mais cette nouvelle pépite, elle s'est arrêtée parce qu'elle n'a pas été capable mentalement de hausser son niveau d'exigence. Et je crois que ce que fait Deschamps, c'est ça, de relever leur niveau d'exigence pour cette compétition qui arrive.
Gilles, les jeunes, c'est peut-être ça le danger toujours, c'est de se perdre.
C'est le danger, et c'est pour ça que Deschamps, qui est très proche de Ripoll, vous le disiez, est allé là-bas. Et c'est pour ça aussi que ce message a été publié sur les réseaux, parce qu'il aura pu être confidentiel.
Par la Fédération française.
Exactement. Hein. Et moi, je trouve que cette publicité est extraordinaire, parce que c'est pas seulement un sélectionneur qui parle à des jeunes, c'est Clémenceau ou Léopold Sédar Senghor, c'est le père de la nation. Pas le père Fouettard, mais le père Lamorale, qui vient dire, nous sommes tous, vous et moi, la nation. Prenez la relève, soyez la nouvelle nation. Soyez conscient de votre potentiel, la France vous regarde. Moi, j'adore.
Et vous, Philippe, vous adorez?
Oui, parce qu'il a un discours de patron dans un club où il y aurait la même chose vis-à-vis des jeunes.
Oui, de toute façon, il l'est.
Le coach de l'équipe première irait donner des messages en dessous en disant, attention, moi, je surveille, je regarde vos matchs. Et si vous voulez un jour rester dans le club, vous espérez avoir le beau maillot, parce que c'est bien d'avoir un joli maillot, mais vous avez celui de la réserve. Le jour où vous montrez en équipe première, c'est moi qui passerai, qui regardera tout ce que vous avez fait. Et il rappelle au passage qu'une compétition, c'est très important. L'Euro Espoir, c'est une compétition importante.
Oui, surtout
à des jeunes qui aujourd'hui voient certains de leurs copains qui sont déjà en A, et qui peuvent avoir pour certains tendance à se dire Ouais, bon, l'Euro espoir, bon, c'est bien, mais bon, je vais essayer de briller un peu, mais bon, de toute façon, ce qui est important, c'est ce qui se passe après. Aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes en U20, en U23 qui oublient que c'est pas là que c'est là aussi que ça se joue pour accéder plus haut.
Et puis on se souvient de certaines sorties de route, on va dire, de joueurs qui étaient partis faire la fête et tout, et certains y ont perdu leur football ou leur place en équipe de France. En tout cas, citons certains des noms quand même de ces espoirs. Parce qu'il y a des joueurs que l'on voit beaucoup tous les week-ends, Lucas Touzard, Ren Adelaïde, donc Moussa Dembélé, Oussem Aouar, Jonathan Ikoné ou encore Romain Del Castillo. Alors il y a les Bleuets, il y a aussi plus jeunes que les Bleuets, ceux qui disputent une Coupe du Monde des moins de 20 ans. C'est en Pologne, entraîné par Bernard Diomède, champion du monde, invaincu en phase de poule, 3 victoires, 3 matchs. Ils disputeront le 8e de finale face aux États-Unis. Alors que les Lionceaux du Sénégal à Bibs sont déjà qualifiés eux, en quart de finale, en battant le Nigeria par 2-1, but signé Amadou Sagna et Ibrahima Niane. Mais la deuxième mi-temps fut difficile et c'est ce que dit leur sélectionneur Youssouf Dabo.
C'est qu'on a été costaud mentalement, même si ça a été difficile, on n'a pas lâché. Parmi les 4 matchs, on peut dire que ça a été celui qui a été le plus dur pour nous, et sur tous les plans. Techniquement, on n'a pas eu la justesse qu'il fallait parce qu'il y a eu trop de déchets. Mais il faut retenir que voilà, les joueurs ont été costauds mentalement. Et ça, c'est une bonne chose. Comme je leur dis, chaque match avec sévérité et ses leçons. Et comme ils sont en formation, tout est bon à prendre pour eux.
Et oui, en formation et aussi en lorgnant sur les
exactement.
Lions.
C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Je pense que Aliou Cissé aussi est conscient qu'il y a de très très bons jeunes au Sénégal. Ça brille dans les catégories inférieures. Il y a une CAN qui arrive pour le Sénégal, les A. Là, il y a cette compétition. Je crois qu'ils ont brillé en phase de poule. Et je crois que ce qui est important, c'est que lorsque vous êtes moins bon techniquement, vous avez ce mental pour aller chercher un match qui était un match difficile pour eux. Donc c'est bien. C'est bien que le football sénégalais soit comme ça aussi bien représenté dans les catégories de jeunes, et on espère que Sadio pourra enchaîner une Ligue des Champions et une CAN pour cette équipe A, parce que je crois que Aliou a bien travaillé ces dernières années et serait bien qu'on puisse rapporter un trophée majeur au pays.
Et oui, enfin, en tout cas, les attendent ou les Japonais ou les Coréens du Sud en quart de finale. Une nouvelle qui est tombée juste avant cette émission, Habib et nos camarades, Philippe Doucet aussi bien sûr, c'est au sujet du tribunal arbitral du sport de Zurich qui, la semaine dernière, avait reçu les délégués de la fédération comorienne. Alors, on le rappelle, les Comores contestaient le fait que le Cameroun continue à disputer les éliminatoires. Il y avait un seul match après la décision de dessaisir le Cameroun de l'organisation. Ils contestaient le fait qu'il soit qualifié d'office et donc espéraient y trouver une place. Finalement, les arbitres du tribunal arbitral du sport donc ont estimé que la demande était irrecevable. Alors, ils expliquent que la fédération ne dispose d'aucun intérêt sportif digne de protection. Et que même en cas de disqualification de l'équipe nationale du Cameroun, une telle disqualification n'aurait eu aucune incidence. Effectivement, les calculs disaient, alors selon la date où on se plaçait, que ça aurait pu être le Malawi. Philippe.
Oui, c'est intéressant de la manière dont on dit le droit, parce que ce que fait le TAS, c'est vraiment dire le droit.
Exactement.
C'est-à-dire qu'ils regardent les règlements de la CAF, ils regardent ce qui s'est passé, et ils disent, c'est normal, c'est pas normal. Et nous, on était tous un petit peu omnubilés sur l'article, je me rappelle plus le numéro, mais qui expliquait...
Je crois que c'est 92,
Oui, 92, absolument. Vous avez raison, Annie.
On
l'article
en a parlé
92
souvent.
Qui disait, si vous êtes dessaisi ou si vous renoncez à organiser une CAN, vous êtes de fait, vous êtes suspendu pour les deux cannes suivantes, etc., etc. Et en fait, le droit est assez spécifique et assez particulier. Le TAS lit ça, mais ne conclut pas du tout comme
ce
qu'on pouvait imaginer. Il conclut en disant, mais attendez. Il faut qu'il y ait un intérêt pour les Comores à déposer cette réclamation. Donc juridiquement, elle peut être valable, mais ils estiment qu'il n'y a pas d'intérêt derrière. Et à partir du moment où il n'y a pas d'intérêt, on veut même pas juger, on vous déboute d'emblée.
Si ça avait été le Malawi, peut-être que oui.
Les Comores espéraient en disant, il faut quand même spécifier, les Comores espéraient en disant voilà, le règlement doit exclure le Cameroun après la cinquième journée, exact. On compte tout le reste, etc. Et du coup, c'est nous qui sommes qualifiés. Parce qu'on on a eu 3 points sur tapis vert du dernier match. Mmh. Et le TASS a lu les choses différemment en disant non, on lit après 6 matchs. Après 6 matchs, c'est le Malawi qui est 3e. Vous n'êtes même pas en position 2, donc je vous déboute d'office. Mmh. Ça veut dire qu'on ne saura jamais vraiment comment ils auraient jugé, mais dans le cas d'espèce, ils déboutent les comment.
Ouais. Gilles,
j'étais ici sur ce plateau quand nos amis comoriens étaient venus présenter leur argumentaire, qui était moralement digne et juridiquement vide. Je vous l'avais dit à ce moment-là, je n'ai pas du tout la même lecture que Philippe. Ça n'avait aucun sens, aucun sens. Il n'y avait aucune possibilité pour que le TASS leur donne satisfaction. Il reposait leur argumentaire.
J'adore les certitudes. Les gens qui sont.
Mais je les avais.
Mène vos robes d'avocat.
Je les avais au moment où ils étaient venus.
Juge.
Le TASS. J'ai eu le bonheur d'avoir la même lecture que le TASS.
Benhamir Saadi était là.
Et donc, effectivement, je ne voyais pas comment ça pouvait être recevable. Parce qu'ils se trompaient dans les dates. Ils faisaient état d'une antériorité de résultats. On n'a jamais vu. On ne peut pas revenir sur des résultats acquis. Il aurait fallu faire la réclamation éventuellement beaucoup plus tôt. C'était du sable. Ce château de sable, hélas pour les Comores, s'est effrité.
On verra donc le Cameroun remettre lui-même en titre son lui-même en jeu son titre, pardon, sa couronne
qui sera pris
de champion.
Par le Sénégal.
Et ce sera une canne à 24 et non à 25, parce qu'on ne sait pas très bien comment on s'en serait sorti sinon.
Exactement. Et si on reste dans le domaine de la Confédération africaine de football, juste pour vous préciser que le comité d'urgence qui siège à Paris depuis ce matin, eh bien, n'a toujours pas rendu son explication ou son verdict. Hein. Rappelons-le, ce comité d'urgence est réuni pour débattre des issues réglementaires à réserver à la rencontre. La rencontre, c'était la finale samedi soir, finale de Ligue des Champions d'Afrique.
Mon Dieu.
Qui s'est terminée par un fiasco absolument incroyable, le sacre de l'Espérance de Tunis. Mais alors, quand on faisait le parallèle entre les deux finales de Ligue des Champions qui étaient l'européenne, même si le spectacle n'était pas toujours non plus extraordinaire, mais l'organisation en tout cas était parfaite, et ce qui s'est passé à Tunis, c'est triste. D'ailleurs, on a vu sur les réseaux sociaux un supporter, je suppose, venir face au président Hamad et lui dire s'il vous plaît sauvez le football africain.
Non mais c'est là, il y a juste une chose, c'est que c'est le drame du football africain, c'est le drame de notre continent en
quelque
sorte.
Sérieux.
Ce match là oui, il représente le drame de notre football, de notre organisation, de tout ce qu'il y a autour de c'est là on parle même pas de résultats, de savoir qui a gagné, non. Qui est qualifié, on s'en fiche complètement. C'est-à-dire que avoir une telle scène dans un match aussi important, c'est ça qui les gens qui regardent la télé, je suis désolé de dire ça, mais les
le
gens qui regardent la télé
pendant une heure et
ailleurs,
et demie, hein.
Ils se disent mais c'est quoi cette mascarade quoi en fait.
Ah c'est l'Afrique.
C'est quoi cette mascarade.
C'est triste.
Et une équipe qui ne reprend pas le jeu, ouais. C'est inconcevable. C'est inconcevable qu'un club comme le WAC, un club considérable, ne reprend pas le match.
Après, ils pourraient déposer justement peut-être recours.
On peut imaginer tous leurs arguments et faire des recours, tout ce qu'ils veulent, mais ne pas reprendre le match. Je te rejoins
là-dessus. Pourquoi ? Parce que le foot n'est jamais terminé. Aujourd'hui, en 3, 4, 5, 6, 7 minutes, vous l'avez vu dans un passé récent. Il y a eu des matchs qui ont été retournés, des retournements de situation, et je trouve que encore une fois, vous avez le droit d'être lésé, vous avez le droit d'être énervé, sortir du terrain le temps de poser votre réserve technique et de dire bon, mais à un moment, je sais pas comment j'aurais géré cette situation en tant qu'entraîneur, mais je pense qu'à un moment donné, vous devez être vous ramener à la raison et de dire à vos joueurs, écoutez, venez tous ici. Là, on s'est fait enfler. Il y a aucun problème. On a tous vu qu'il y avait pas hors-jeu. On joue. Il reste 20, 30, 10 minutes, 5 minutes. Vous savez quoi ? Pendant ces 5 minutes, on va les enfoncer. On va gagner ce match. On va retourner la situation.
Le problème, c'est les dirigeants, Abid. Ouais. C'est les dirigeants du club qui ont pris cette décision. C'est pas les joueurs.
J'en suis bien conscient.
Évidemment.
Du club, de la fédération et tout, ouais. Parce que tout le monde s'en est mêlé.
C'est ce qui avait coûté un an de non-participation, d'exclusion des coupes européennes à l'AC Milan à l'époque, quand il avait, après la panne électrique, pas repris le jeu à Marseille. Je suis entièrement d'accord avec mes collègues.
89e minute.
Exactement.
C'est un peu différent.
Ne jamais quitter le terrain, parce que là, vous êtes fautif et risque d'être lourdement sanctionné. Je me permettrai simplement de dire que si je suis totalement contre la VAR depuis le début, c'est parce que vous êtes à la merci de problèmes techniques, comme là, il y a les problèmes de gestion humaine de la VAR, mais il y a ces problèmes techniques. Il y a une inégalité de la VAR, parce que là, elle n'a pas marché.
Sauf que l'International Board dit qu'en aucun cas un match ne peut être empêché ou rejoué à cause de la VAR.
Oui, bien entendu. Là, vous êtes sur le règlement, mais sur l'injustice morale. Cette VAR-là, pourquoi elle n'a pas marché? Parce qu'on y a accordé moins de budget, justement, sans doute, qu'à la finale de la Ligue des Champions. Et ça, c'est une injustice. La VAR ne solutionne pas les problèmes, elle crée de nouvelles injustices.
Bon, en tout cas, le comité d'urgence se réunira ce soir de nouveau à Paris et donc nous parlerons.
Il semble que dans les discussions qu'il y ait eu aujourd'hui, il y a une forte tendance à souhaiter organiser dorénavant la finale sur un seul match, sur un territoire neutre. Ce qui apparaît
c'est pas forcément
comme
une réponse
éventuellement
à ce qui s'est
du
passé,
bon sens si on prend comme modèle la Ligue des Champions européenne, mais je rappelle que tous les autres continents font des matchs aller-retour de la même manière que l'Afrique. Donc je ne suis pas persuadé que ce soit une solution tout à fait qui évite tout problème.
Et sans doute pas la réponse à ce qui s'est passé samedi soir. On continue.
Radio Foot International. Annie Gasnier.
Neymar et ses déboires. Le joueur du PSG est actuellement à l'entraînement sur les hauteurs de Rio avec la sélection du Brésil. Et demain soir, il jouera en amical contre le Qatar à Brasilia en match de préparation de la Copa América qui commence dans une dizaine de jours. Neymar n'en est plus capitaine de cette sélection, mais il est bien sur la liste en dépit de l'affaire qui fait la une des journaux là-bas comme ici. Neymar accusé par une jeune femme de viol qui se défend à travers les réseaux sociaux. Neymar avec toute sa famille d'ailleurs, le père puis la mère puis la sœur, et le sélectionneur Tite lui essaye de rester en dehors du tumulte.
Neymar est un joueur extraordinaire. Je ne jugerai pas ce qui concerne les autres situations. Il y a d'autres endroits et d'autres moments pour cela. Je ne dirai rien là-dessus pour deux raisons. Ce n'est pas le moment et il ne faut pas avoir de préjugés sur toutes ces choses-là. Ce ne sera pas mon cas. Quand on dit que Neymar est vital pour nous, cela ne veut pas dire qu'il est irremplaçable. Il est vital car un joueur avec la qualité de Neymar est essentiel pour une équipe. Mais personne n'est irremplaçable dans n'importe quel endroit et à n'importe quelle fonction.
Habib, pour l'entraîneur, pour le sélectionneur, c'est compliqué de ne pas juger. C'est peut-être simple, mais comment résister à cette tourmente évidemment autour?
Je pense que lui, c'est de la communication. Il a discuté avec Neymar, clairement. Il a pas laissé Neymar comme ça, tout seul, vivre cette situation. Je pense qu'il a discuté avec son joueur, il a échangé avec son joueur. Il a peut-être plus d'informations que nous en avons, nous, puisque la discussion aussi a amené Neymar peut-être à se confier. Après, il va pas dire dans la presse, Neymar m'a montré cette photo, ce texto, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est juste de parler de l'aspect sportif de son équipe, ne pas créer un autre drame, parce que, à un moment donné, il a des compétitions à jouer et des compétitions importantes. Donc lui, il a raison de parler de management d'équipe, de dire qu'il trouve que Neymar est là et est bien et est bon. Donc à partir de là, il ne doit pas aller sur ce terrain de l'extra-sportif, sinon il fragilise son équipe et il fragilise Neymar encore en plus.
Indéniablement, de toute façon, ça pollue un peu l'environnement d'une équipe du Brésil qui est basée actuellement dans son pays pour disputer la Copa América dans son pays. Et on sait combien cette compétition compte sur le continent sud-américain, Gilles.
Même si le Brésil a souvent l'habitude d'ambiances un peu volcaniques ou compliquées, ou festive, mais là effectivement c'est compliqué parce que c'est Neymar, parce que on compte énormément sur Neymar. Il y a une volonté de rédemption quand même. Le Brésil en a
besoin après la dernière Coupe du Monde.
Après les dernières Coupes du Monde même. Donc Neymar fragilisé, ça pose un vrai problème. Et même si c'est très contradictoire, les avocats de la plaignante se sont retirés, on ne sait pas quelle sera l'issue. En tout cas pour la réputation de Neymar, et donc parce qu'il incarne la sélection brésilienne, pour la réputation du Brésil, c'est très compliqué
à
gérer.
En fait, il est sali à vie. Le vrai problème aujourd'hui, quoi qu'il arrive maintenant, même si la plainte se retire, même si la fille dit « j'ai menti », vous pouvez dire ce que vous voulez. Son nom maintenant sera associé à viol. Et on l'a vu par le passé pour d'autres personnes. Même s'il est aujourd'hui innocenté, on pourra dire ok, c'était un mensonge. Mais le problème d'avoir vécu ça, c'est quelque chose de dramatique pour lui. C'est dramatique pour lui. Et aujourd'hui, on ne sait pas quelle est l'issue de l'affaire. On ne sait pas si c'est une vérité. On ne sait pas si c'est un mensonge. Personne n'est capable de le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que être associé
en tout cas,
à
pour
ça,
le footballeur,
pour le joueur qu'il est et l'humain qu'il est. c'est dramatique.
Ouais. Philippe, c'est d'ailleurs vraiment une année sombre que celle de Neymar finalement, parce que il y a eu cette blessure avec le Paris Saint-Germain, de nouveau la même à peu près au même moment, et donc qui gâche toute la saison du club, en tout cas européenne. Ensuite, il y a ces sanctions dont il écope pour s'être mal comporté en fin de finale perdue de Coupe de France, et maintenant c'est cela.
On a l'impression que c'est un peu la fin de l'innocence pour Neymar. Il est un peu à la croisée des chemins. Il a 27 ans.
Sauf qu'il a 27 ans, oui.
Il a 27 ans. Il a été un gamin absolument génial jusqu'alors. Et puis tout d'un coup, s'accumule un certain nombre de choses. Je trouve que le vrai démarrage, oui, bien sûr, il y a cette blessure avec le Paris Saint-Germain, mais le vrai démarrage, c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2018, c'est déjà un retournement de son pays, déjà,
oui.
Qui le critique énormément, oui. Alors que c'est le joyau, qu'il a été préparé, fabriqué au Brésil comme un joyau et le gamin qui représente le pays depuis des années, et tout d'un coup, le pays s'est déjà retourné une première fois contre lui, ce qui n'avait pas été le cas en 2014, où il avait été exempté, oui. Si j'ose dire, et à juste titre d'ailleurs, parce
blessé.
D'abord il avait été très bon, puis ensuite il n'était pas du désastre contre l'Allemagne.
Il avait
ensuite gagné les JO en 2016, donc la réhabilitation était vraiment totale. Et 2018, je trouve qu'il y a une cassure très forte. On le revoit du coup arriver au Paris Saint-Germain avec beaucoup de motivation et un premier trimestre, enfin Habib qui suit beaucoup la Ligue 1 me le confirmera, un premier trimestre que j'ai trouvé de grande qualité, oui. Avec un très bon état d'esprit. Et puis, le gamin, le trublion, il ressort à certaines occasions. Et je pense que cette affaire-là, comme dit Habib, qu'elle soit vraie, pas vraie, qu'elle soit démontée, comme il a l'air d'en être question, malgré tout, elle marquera la fin d'une innocence. Et on va voir qui est l'homme Neymar maintenant. Le gamin, ok, l'adolescent, on a vu, il a usé jusqu'au bout, il est allé jusqu'à 27 ans comme ça, ce qui est déjà énorme. Mais maintenant, on va voir le champion ou pas le champion. On va voir le révélateur, ça va être maintenant.
Au Brésil, d'ailleurs, on le traite encore de mimado, c'est-à-dire d'enfant gâté.
Oui.
Quoi.
Oui, c'est
et c'est vrai que du coup après ces incartades un peu quand il va au carnaval alors que tout le monde s'entraîne ou quoi, c'est des choses, et puis beaucoup liées à l'argent aussi, parce que évidemment ça c'était pas de son fait, mais ce transfert pour 220 millions d'euros l'avait placé très haut, et finalement sportivement on a l'impression qu'il est un peu en panne, Gilles.
Oui, puis l'icône devient sulfureuse, c'est-à-dire que le côté joueur extraordinaire s'est quand même noyé, même si on connaît pas effectivement l'issue, il y a la présomption d'innocence hein, partout, le côté je fais la fête, je bois, je sors alors que je suis blessé. Il y a un côté un peu, je dirais pas qui n'est pas très sain, mais il y a un côté un peu noir, une face sombre de Neymar qui indiscutablement va rejaillir sur son jeu, parce que son jeu qui était de spontanéité risque d'être marqué
voir
par ça,
sur ses blessures,
par ça,
voir
sur ses blessures, sur ses sponsors, donc sur sa carrière.
Moi, je vais vous dire, je pense qu'il est anormal avec le talent qu'il a de ne pas être déjà Ballon d'Or. Il a 27 ans. Il aurait dû déjà être au moins Ballon d'Or une fois.
S'il était resté au Barcelone, peut-être.
Non, je pense que s'il avait eu une hygiène de vie, s'il avait eu l'hygiène de vie d'un Ronaldo, d'un Messi, parce que aujourd'hui, il faut pas oublier que Neymar, on le met dans cette galaxie. C'est-à-dire que quand on parle de lui, en termes de qualité, il est dans la galaxie des top joueurs. C'est-à-dire qu'il prétend à gagner ce trophée.
Oui,
mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte, par exemple, que, dans l'ère Messi, Ronaldo, Modric est venu s'intercaler et gagner un trophée. Donc ça veut dire qu'il était possible pour Neymar, à un moment donné, de gagner ce trophée. Et on se rend compte qu'il a fini 14e du Ballon d'Or. Il a pas fini 6e, 5e, 4e, non, il a fini 14e. Très très loin de ce qu'on pourrait attendre d'un joueur de sa qualité. Et là où je rejoins Gilles, c'est que je reparle d'éléments polluants, mais c'est dans la vie d'un joueur. Vous n'avez pas vu de joueur hors norme, alors peut-être Maradona qui avait une vie un petit peu ou George Best à l'époque,
Ronaldinho.
Dans un autre football. Mais Ronaldinho aujourd'hui aurait dû gagner 5 ballons d'or, Annie, avec le talent de Ronaldinho, il n'a gagné qu'un ballon d'or. Rendez-vous compte, c'est quelqu'un qui a survolé son temps.
Et oui.
Mais il a survolé son temps un an, deux ans, parce qu'à un moment donné, sa vie, le carnaval, boire, les filles.
La bonne comparaison.
Je veux pas juger ce qu'a fait Neymar, on a tous fait ce genre de choses, mais lorsque vous êtes Neymar, à ce statut-là, un hôtel, des trucs, je pense qu'il y a mieux à faire pour se protéger. Je dis pas qu'aujourd'hui il est coupable de quoi que ce soit, mais lorsque vous avez ce statut-là, et on l'a vu avec Cristiano Ronaldo sur l'histoire de Las Vegas, tous ces joueurs-là ne sont pas à l'abri de ça. Parce que, à un moment donné, vous êtes quelqu'un, vous représentez quelqu'un, il y a une question de timing aussi. Ça sort juste avant une compétition, le Brésil est au Brésil, alors que ça s'est passé il y a quelques mois. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. À un moment donné, la police va faire son enquête. On verra si ce qu'essaye de démontrer Neymar aujourd'hui est vrai. Et on l'espère pour lui maintenant. On ne sait pas. On ne sait pas. Et pour Neymar, il faudrait vraiment rentrer dans cet aspect sportif qui l'amène à la consécration. Et pour moi, la consécration, c'est lié à son talent.
Ouais. Et s'il se reconcentre sur le côté sportif, il en aura l'occasion pendant cette Copa América s'il continue à travailler. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce Radio Foot aujourd'hui. David Fidel nous a aidé à préparer cette émission. Laurent Salerno était à la réalisation et on vous dit à demain.
C'était Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.